Bien, je compte parler assez peu de temps pour que nous puissions ensuite débattre un peu sur François Jugon. Je pense qu'en trois quarts d'heure, j'aurai dit ce que j'ai préparé. Donc, nous parlons ce soir d'une œuvre philosophique contemporaine, d'une ampleur maintenant considérable, mais toujours en cours, s'augmentant chaque année d'au moins un nouvel essai. Donc, l'œuvre de François Julien. Alors, dans le petit livre dont vient de parler aimablement Claude, comme le dit son titre, il s'agit de repérer et parcourir le chantier conceptuel dont l'œuvre de Julien procède et qu'elle déploie. Alors, voilà le propos de cette étude, dont l'intitulé complet est « Penser par écart, le chantier conceptuel de François Julien ». Alors, la forme verbale du premier mot « penser » indique que ce sur quoi on s'interroge est une activité qui d'ailleurs continue de s'exercer, avec pour but, finalement, d'être en mesure de répondre à la question suivante : quelle sorte de philosophe est François Julien ? Comment caractériser son travail intellectuel propre ? Alors, qui se donne cette tâche, semble avoir pour meilleur allié le philosophe lui-même. En effet, Julien explicite son itinéraire et ses problématiques avec un soin particulier. Il ne s'avance pas masqué, bien au contraire, il met les points sur les i. Deux grands textes d'auto-présentation de sa part. D'abord, en 2000, un texte intitulé « Pensée d'un dehors », entre parenthèses, la Chine, entretien d'Extrême-Orient. Et plus récemment, très récemment même, dans un cahier de Lerne, celui-ci, qui lui est consacré, un texte intitulé « Repère ». Puis, qui est devenu, je crois, une publication à part. Donc, l'insistance est manifeste de sa part. Alors, à cet égard, la manière de procéder de Julien en s'expliquant régulièrement me semble à l'opposé de celle de Foucault, qui, lui, s'ingéniait à échapper à toute tentative d'identification. Avec Foucault, c'était « Vous me croyez ici, je suis déjà ailleurs. Vous me croyez structuraliste, non, il n'y a que l'histoire qui m'intéresse. Vous me croyez démolisseur des notions de sujet et de liberté, pas du tout, je les ressuscite. » La générosité intellectuelle de Foucault, vous voyez, était toujours sarcastique. Foucault tenait dans son sourire, à bien regarder comment il souriait. Julien, lui, sourit très peu. Avec lui, ce serait plutôt, je sais mieux que vous ce que je fais. Je vais donc vous l'expliquer. Alors, c'est un philosophe qui se commente lui-même et par là devance le commentaire. De sorte que le commentateur, vous voyez, c'est le rôle que je tiens, le commentateur a quelques difficultés à ne pas simplement répéter la parole du maître. Pour employer un terme essentiel dans sa panoplie intellectuelle, il est difficile de trouver l'écart. par rapport à une pensée aussi préparée, équipée, stratégique. Suis-je parvenu à trouver l'écart ? Vous en jugez. Alors, j'expose maintenant les grandes lignes de mon travail. Première remarque, l'optique choisie, si vous voulez, le point de vue adopté sur cette œuvre, est générale. Alors, qu'étant donné son ampleur, il peut paraître plus prudent et aussi plus efficace de l'approcher de façon ciblée, en visant un point particulier. En effet, cette œuvre, par ailleurs très largement traduite, une des plus traduites aujourd'hui parmi les penseurs français. Cette œuvre, dont l'audience donc dépasse nettement l'hexagone, est composée de nombreux essais qui traitent de questions métaphysiques, éthiques, esthétiques, anthropologiques, politiques et même théologiques. Le cahier de Lerne, dont je vous parlais là, montre la pluralité des approches et des usages qu'on peut faire de ce travail philosophique qui, de plus, je le répète, n'est pas achevé. Alors, dans ce cahier, plusieurs contributions m'ont paru particulièrement intéressantes, notamment l'une sur le cinéma chinois contemporain, signée par Jean-Marie Crépon. Je me demande si ce n'est pas le critique. C'est un enseignant, hein. C'est un enseignant dans les écoles de cinéma. Je me demande si ce n'est pas un des critiques cinématographiques du monde. Crépon, ça vous dit quelque chose ?
Non.
La contribution est extrêmement intéressante. Il s'agit de comprendre, d'interpréter le cinéma chinois contemporain à l'aide des concepts de François Julien. Et une autre, donc je passe là-dessus, vous voyez, je vous le signale. Et une autre, je sélectionne, qui revient sur la lecture philosophique que, dans un petit essai récent de 2018, intitulé « Ressources du christianisme, mais sans y entrer par la foi », Julien propose... Ah oui, voilà, le voilà. Julien propose de l'évangile de Jean, texte théologiquement fondateur de la religion chrétienne. Eh bien, l'auteur de cette contribution-là est Pascal David, dominicain, excellent connaisseur de la pensée de Julien. Il montre que l'approche de philosophe et d'helléniste apportée par cet essai permet de lire de façon nouvelle, je parle de l'article maintenant, de David, indépendamment de son petit bouquin, de ce petit bouquin, mais portant sur lui. David montre que l'approche de Julien permet de lire de façon nouvelle, au-delà de l'évangile de Jean, le texte biblique lui-même. L'article est extrêmement intéressant, enfin, surtout pour moi qui ne suis pas très calé en théologie. Exemple, c'est un exemple, si vous voulez, deux exemples de ce que j'appelle une approche ciblée et en l'occurrence très probante d'une œuvre dont la fécondité philosophique est ainsi démontrée. Ce n'est pourtant pas celle que j'ai faite. J'ai retenu une approche générale, une vision d'ensemble du chantier. Je vais maintenant expliquer comment et pourquoi. Comment, d'abord. Alors, d'abord, le fil, si vous voulez, de menus événements. Ce petit livre fait suite à un article paru dans la revue thématique de littérature et sciences humaines Approche. Cette revue. Le numéro de septembre que je tiens, de septembre 2017, est consacré donc à Julien, avec pour maître d'œuvre efficace Alain Douchevski. Je crois que c'est un prof de Cagnes à Paris, mais c'est un spécialiste du travail de revue. En collaborant avec lui, je m'en suis rendu compte. Alain Douchevski, qui dans cette revue signe un article de fond, vous voyez, de la philosophie pure et dure sur Julien, et ouvre le numéro par un entretien très éclairant avec Julien. Alors, pour ma part, dans cette revue, Approche, je contribue avec un article de taille modeste, une trentaine de pages, que Julien me dit avoir apprécié, sauf son titre. Nous nous connaissons depuis longtemps, je préciserai en quelles circonstances, mais nous ne nous sommes pas rencontrés depuis plusieurs années. Il est l'an dernier, je crois, de passage à Clermont, je ne manque pas l'occasion. Alors, l'article que j'ai commis là-dedans est intitulé « Promenade dilettante dans les chantiers de François Julien ». Alors, « dilettante » fait évidemment contraste avec « chantier », manière de répartir les rôles, d'un côté le travail, la production intellectuelle, le sérieux, de l'autre l'amateur, le plaisir, la délectation même que dit le mot d'origine italienne. Mais plaisir honnête, hein, plaisir du texte. Alors, cet article, Julien me conseille de l'amplifier. Ce que je fais en précisant explicitement mon propos initial, mais sans sortir du même cadre d'approche. Bien que passant de 30 à quelques 170 pages là-dedans, ce travail reste général sans être exhaustif. Sa présentation du chantier conceptuel en question est une esquisse et non pas une étude complète. Suis-je clair ? Je continue. Le propos est donc de montrer comment ce chantier conceptuel s'est progressivement mis en place, constitué, et pour cela, je procède en m'arrêtant sur certains ouvrages que je considère comme décisifs, des points stratégiques du chantier. Les voici. D'abord, procès ou création en 1989, livre source où se déploie, notamment dans la conclusion, un champ de recherche à la fois philosophique et sinologique. Livre source de 1989 qui aboutit en 2015 à un livre somme intitulé « Lexique euro-chinois de la pensée » dont je commente l'un après l'autre les 20 couples d'opposés au sein d'un tableau général qui condense, récapitule, plusieurs décennies d'une recherche sinologique originale. Si originale, d'ailleurs, qu'elle a sérieusement dérangé les spécialistes de la Chine, les sinologues. J'évoque l'affaire rapidement. Je m'arrête également sur l'essai de 2008 traitant de l'universel, parce qu'ici également, une longue piste de réflexion aboutit. Cette réflexion interculturelle me semble se hisser au niveau de celle de Lévi-Strauss, qu'elle ne conteste pas, mais poursuit, prolonge, à sa façon réactualise. Ce qu'elle conteste en revanche, et explicitement, frontalement, c'est la thématique dominante dans les années 2000, et aujourd'hui encore, je crois, du choc des civilisations, le thème du politiste américain Huntington. La proximité de vision anthropologique entre Julien et Lévi-Strauss a été relevée par Marcel Gaucher, qui parle, je cite, « de l'école du décentrement occidental ». Un numéro de la revue de Gaucher, Le Débat, en janvier 2009, examine et discute les idées de Julien. Un autre livre est l'objet d'un commentaire spécial dans mon livre, c'est l'essai sur l'intime de 2013. Sur l'intime. Parce que là se trouve le point de départ de toute l'élaboration conceptuelle récente de Julien se formulant comme philosophie du vivre. Les concepts principaux en sont second, second à distinguer de deuxième, des coïncidences et inouïes. Les essais qui présentent ces concepts font également l'objet d'une lecture suivie. Voilà le sommaire de mon approche du chantier conceptuel. D'autres ouvrages de Julien sont évoqués, comme ceux traitant du rapport de la pensée chinoise à la psychanalyse, ceux traitant du nu absent dans l'art chinois, le nu impossible, mais donc pas tous les ouvrages de Julien. À l'intérieur, si vous voulez, du chantier, ma promenade initiale est devenue une visite. Je me suis attardé à plusieurs endroits, mais j'ai fait des choix. Promenade ou visite, l'intention principale de cette relecture d'ensemble est de montrer qu'il s'agit d'une pensée en mouvement, conquérant sans cesse de nouveaux territoires d'intelligibilité, séduisante par son dynamisme même. Et c'est ce mouvement que je cherche à restituer, le plan du livre en trois chapitres, comme trois étapes: itinéraire, démarche, orientation. Un itinéraire intellectuel singulier, à partir duquel prend forme une démarche philosophique originale, sur l'orientation de laquelle il est permis de s'interroger, d'autant qu'elle n'est pas close, achevée, mais ouverte, vivante. L'itinéraire est donc le point de départ. Alors, l'itinéraire, il comporte de l'événementiel, des éléments concrets rapportés avec une certaine précision. Je fais commencer cet itinéraire en 1975 à l'université de Pékin. D'abord, de qui s'agit-il ? Eh bien, d'un normalien helléniste. Que vient-il faire là ? Que cherche-t-il en apprenant le chinois ? En 1975, la Chine, j'ai découvert ce pays, le pays cet été-là d'ailleurs, lors d'un voyage auquel je participais un peu par hasard. J'avais saisi l'occasion. Donc la Chine de 1975, si j'ose dire, ça ne rigolait pas. Vous voyez ? C'était la dèche, une belle dèche, bien visible, et la parole unique, c'est-à-dire faite de slogans que tout le monde reprenait. Qu'on visite une école, une usine, un hôpital ou une commune populaire, tout le monde disait la même chose. Donc rien à voir, si vous voulez, avec l'hypermodernisme orgueilleux, sûr de lui-même et dominateur, hein, comme on dit, qu'affichent aujourd'hui les mégapoles chinoises. Une autre Chine, que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Ce premier chapitre itinéraire commence par un récit, mais un récit intellectuel, et se termine en 2015 avec le lexique euro-chinois dont j'ai parlé, et que suit la formulation d'un programme philosophique ainsi énoncé. Il s'agit de passer d'une philosophie de l'être à vocation ontologique à une philosophie du vivre résolument processuelle qui reste à élaborer. Le second chapitre, donc intitulé « Démarche », expose cette problématique nouvelle avec son lot de concepts propres. On peut alors vérifier la justesse de la formule de Léon van der Merch, vous voyez qu'il y a une figure éminente de la sinologie française, pour profiler ce parcours singulier. Là voici la formule. François Julien cultive la sinologie, mais pour y mûrir une philosophie, c'était jusqu'ici sans exemple. Oui, sans exemple. Et c'est clair, la quatrième de couverture des livres où l'auteur se présente comme, tous les livres de Julien, oui, il se présente comme philosophe, helléniste et sinologue. Oui, philosophe d'abord, mais venu du grec et passé par le chinois. ayant appris le chinois, entre guillemets, pour mieux lire Platon. Mieux. Car l'important n'est pas de lire, mais de relire. Ce qui est décisif dans la pensée comme dans la vie, c'est la reprise, le second temps. Voilà ce que veut dire second comme concept. Si le mot liberté a un sens, c'est à travers ce processus de reprise. Le troisième chapitre, immodestement appelé orientation, se place à l'intérieur d'une réflexion philosophique dont les essais les plus récents nous présentent les contours. À travers une nouvelle série de concepts, le dernier étant l'inouï. Le voici, le dernier, 2019. Ce troisième chapitre s'interroge sur la direction que prend la réflexion de François Julien. Alors, notez que mon petit livre est ainsi déjà dépassé, puisque ne prenons pas en compte la toute dernière publication de Julien. Mais il faudra ou il faudrait que je songe à ajouter un complément. Mais pourquoi avoir ainsi pris sur l'ensemble de ce travail conceptuel le point de vue du mouvement à travers une reconstitution progressive? Eh bien, dans ce choix interviennent des données personnelles, une somme d'expériences vécues comportant une part de hasard, donc, du moins au début, dont je vais dire quelques mots afin de clarifier ma propre démarche. De fait, j'ai un rapport un peu particulier à l'œuvre de Julien. Je ne crois pas être seul à avoir lu attentivement l'intégrale de cette œuvre. En ce qui me concerne, dans l'ordre même de sa publication, et parfois même avant, je m'explique. Julien et moi, nous sommes rencontrés à Pékin en 1978. En effet, nous résidions au même endroit, nous étions voisins. Et nous constatons que nous effectuons à peu près le même travail qui consiste à recycler des enseignants chinois de langue française. Au sortir de la révolution culturelle, vous voyez, qui a maintenu le pays dans un isolement complet, ils en ont grand besoin de recyclage. Ils sont d'ailleurs demandeurs. Alors, la conversation que nous amorçons, alors, se déroule dans une situation politique bien particulière. 1978, c'est l'année où le socialisme chinois change de cap, avec Deng Xiaoping à la manœuvre. C'est l'année charnière dans l'histoire de la Chine moderne, et peut-être dans l'histoire tout court. De l'intérieur, on ne peut pas ne pas se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Mais on ignore vers quoi. Alors, cela alimente, si vous voulez, nos nombreux échanges avec Julien, nos nombreux échanges d'impressions, qui se déroulent, bien sûr, sur un ton détendu, familier, sans formalisme aucun. Mais nous avons un autre grand sujet de conversation qui, d'emblée, retient toute mon attention. Julien m'expose un projet intellectuel auquel je trouve grande allure. C'est en somme de penser entre Chine et Europe. Naturellement, en empruntant la monture sinologique. C'est le seul moyen d'accéder à la pensée chinoise. Il n'y en a pas d'autre. Mais pour aller ailleurs, pour revenir à la philosophie. Alors, qu'est-ce qui tout de suite me frappe dans la parole de Julien, quel que soit son objet, eh bien, c'est qu'elle présente deux qualités apparemment contraires. Elle est extrêmement précise dès qu'elle analyse. Elle pénètre, fouille, explore, épuise le sujet, en usant de termes d'une exactitude pointilleuse. Mais cette parole est aussi capable de déployer des perspectives très vastes. Sa culture évidente lui permet de jouer sur ces deux plans, de passer souplement de l'un à l'autre. Cette pensée est à la fois analytique et programmatique. Elle sait varier les distances, regarder alternativement de très près ou de très loin. Alors, ces conversations, vous voyez, je ne les oublie pas. De retour en France, nous maintenons le contact, quoiqu'à distance. Lui prépare sa thèse et pour cela, il se rend plusieurs fois en Extrême-Orient, au Japon, à Hong Kong, à Taïwan. Il reçoit l'enseignement de grands connaisseurs asiatiques de la pensée chinoise. De mon côté, j'enseigne la philosophie en province, prof de terminale, et parallèlement, ayant appris à lire et à écrire le chinois pendant mon séjour à Pékin, je m'exerce à déchiffrer les grands textes, hein, les grands textes classiques, Lao Tzu, Confucius. Je rame, hein, beaucoup. Et deux fois, pendant mes vacances d'été, je vais voir en Chine comment les choses évoluent. La troisième fois, c'est en juin 1989. Alors cette fois, on me rembourse mon billet d'avion. Vous voyez, il n'y a plus d'avion pour Pékin en juin 1989. Au début des années 90, Julien me convie au séminaire qu'il commence d'animer à Paris le vendredi après-midi. Je suis partant, j'y assiste pendant 5 ans. Oui, j'en manquerai pas, même pendant 5 ans. Dans une atmosphère studieuse, mais toujours détendue, hein, le gai savoir, disons. Voilà comment les premiers essais de Julien, avant de les lire, je les entends. J'en conserve les notes, hein, sur des cartes. Alors, ces deux expériences, si vous voulez, se connectent naturellement dans ma pensée. En 1978, j'ai eu le sentiment d'assister à la conception d'une réflexion philosophique neuve. Quelques 10 ans plus tard, cette réflexion se met effectivement en route. Les concepts arrivent et s'enchaînent. Procès, potentiel de situation, efficacité, fadeur, immanence. Voilà. Voilà l'expérience personnelle, si vous voulez, en 2 épisodes bien articulés, qui m'a incité à prendre sur le chantier conceptuel de Julien un point de vue général, à la fois général et dynamique, à en considérer l'ensemble, mais dans sa formation progressive, dans son parcours. D'où le plan d'ouvrage, sa composition en 3 chapitres, comme 3 étapes, dans l'élucidation d'une pensée en marche. En marche, si l'expression vous fait renâcler, disons en mouvement. Pensée en mouvement, comme vous voudrez. Voilà comment et pourquoi j'écris ce petit livre. Mettre au net, au fond, des impressions de lecture parties d'une conversation et qui l'ont continué, et qui la continue même. Le style si caractéristique de Julien, je l'entends. Si vous voulez, il a une voix. La lecture est une forme de conversation, hein. C'est Descartes qui l'a dit. Alors, précision au passage, précision importante. J'ai entendu, cette proximité personnelle avec le texte de Julien ne résout pas magiquement les problèmes de sa compréhension. Je tiens cette pensée pour difficile, je bute ou m'interroge à certains endroits. Un lecteur attentif de mon bouquin s'en apercevra. Abordons pour finir cet aspect de mon travail. Ce petit livre, à qui ou pour qui? Je distinguerai 2 catégories de lecteurs. Ceux qui n'ont pas encore lu Julien ou peu lu, et qui au premier contact rencontrent des difficultés d'accès, et ceux qui, d'ores et déjà, fréquentent cette pensée, voire utilisent sa panoplie conceptuelle. Il y en a. Ça ne manque pas. Vous voyez, le cahier de Lerne le montre. Alors, au premier lectorat, vous voyez, qui cherchent à aborder cette œuvre imposante et hérissée de concepts. Ce livre peut fournir, je l'espère, un moyen d'accès commode, un plan d'ensemble pour circuler dans le chantier, je dirais, en prenant pour commencer le ton du récit, une histoire philosophique racontée par un témoin, si vous voulez. Je raconte une histoire et j'en tire la morale, mais c'est une histoire de philosophe, ne pouvant être racontée qu'avec des termes philosophiques. Toutefois, ces clés d'accès que j'ai confectionnées, je les conçois comme simple prélude à l'expérience philosophique elle-même, irremplaçable, lire le texte lui-même. Se frotter à la prose philosophique de Julien. Toute pensée philosophique peut être résumée, et bien résumée, hein, mais autre chose est de la rencontrer dans son texte, dans sa voix propre. Alors, au second lectorat, vous voyez, plus averti, qui, lui, pense déjà avec ou à l'aide des concepts de Julien, je proposerai un regard personnel, non pas subjectif, hein, j'espère, sur cette aventure philosophique contemporaine que j'essaie de situer par rapport à ces grandes figures de la pensée du siècle précédent que sont Lévi-Strauss et Foucault. Notamment, je caractérise Julien dès l'introduction et de nouveau en conclusion comme philosophe littéraire. Alors, je ne développerai pas, sauf pour indiquer quelques directions pour comprendre cette expression, philosophe littéraire. Eh bien, philosophe littéraire d'abord au sens de philosophe descriptif, qui excelle dans la description du vécu à dire le vif des choses. Voyez par exemple sa présentation des concepts d'intime et de paysage. Par là, Julien se place, à mon avis, dans le sillage des grands philosophes descriptifs du XXe siècle, sous l'influence de la phénoménologie, tels que Lévinas et Sartre, qui sont des philosophes descriptifs. Mais un autre sens possible de l'expression philosophe descriptif est que la réflexion de Julien ne cesse de circuler entre deux grandes traditions littéraires, celle de la Chine et celle de l'Europe. Sur l'une comme sur l'autre, par un jeu stimulant de vis-à-vis, il nous offre un regard d'autant plus plongeant qu'il est oblique. Son premier grand travail, sa thèse de 1985, portait sur les catégories originales de la poétique chinoise. De la poétique, hein, pas de la poésie, car la tradition chinoise comporte une poétique, c'est-à-dire une théorie de la poésie. L'esthétique est une dimension permanente de la réflexion de Julien, de part en part de son œuvre. Et la Chine, dans cette esthétique, en est une pièce indispensable, constitutive. La Chine, civilisation littéraire. Vous voyez, est-ce que Robespierre, Lénine, Trotsky ou Staline écrivaient des poèmes? Le président Mao, oui. Oui, et pas pour célébrer les dames de ses pensées, hein, pour des poèmes associés à son action révolutionnaire. Et sur l'autre versant, vous voyez, lire Julien, c'est revisiter la littérature européenne depuis Homère, Héraclite, Platon et Aristote. Et principalement, revisiter la littérature française de Montaigne à Proust, en passant par Rousseau et Stendhal. Même si Menon y trouve place, bien mérité à mon avis. Par cette attention aux faits littéraires, voyez, on pourrait rapprocher sa démarche de celle de Bachelard, visant l'imaginaire poétique, certes dans une optique philosophique très différente, hein, puisque chez Bachelard, d'analyse littéraire centrée sur les cinq éléments et la continuation de l'épistémologie. Alors, Julien est philosophe littéraire en un troisième sens, plus radical encore. C'est qu'il travaille dans la langue même, ou plutôt dans les langues. Les concepts qu'il propose sont presque tous extraits du parler commun, celui que nous employons chaque jour, sans trop y réfléchir. Comment y parvient-il ? En inversant cette pente, en s'écartant des usages convenus, de tous les usages convenus, y compris et surtout de ceux qu'il tient de sa formation. Écart, voilà l'idée importante qui donne son titre au livre. Le travail conceptuel de Julien résulte d'un combat contre le langage, mais qui utilise à son profit les ressources de langue que fournit la confrontation du grec et latin au chinois classique, en passant par l'allemand. Cette fois, c'est de Nietzsche, philologue, dont il est proche. Pour Julien, vous voyez, Babel n'est pas une malédiction, c'est une chance. Au final, son rapport au langage me paraît très proche, sans qu'il cite jamais ce philosophe de Merleau-Ponty, avec qui il partage un concept essentiel, l'ambigu. Je cite Julien. La tâche de la réflexion philosophique, depuis qu'elle s'est formulée, c'est-à-dire en Grèce, c'est par rapport au langage d'en expulser l'équivoque, de le nettoyer. La tâche que se donne à présent Julien, c'est d'en explorer l'ambigu, expulser l'équivoque et explorer l'ambigu. En quoi il me semble, l'exploration de l'ambigu, en quoi il me semble avoir été précédé par Merleau-Ponty, philosophe ductil, pour reprendre un terme de l'auteur du Cygne. Je résume, dans ce travail philosophique, l'écart est ainsi la condition du mouvement, car dès qu'on s'écarte, on bouge, on peut avancer. Mais c'est de soi qu'on doit s'écarter. Vous voyez, l'idée peut paraître philosophiquement très ancienne. Dans la fameuse allégorie platonicienne de la caverne, le prisonnier commence de penser véritablement dès lors qu'il s'écarte de sa position initiale fixée depuis l'enfance. Idée réactualisée par Descartes, qui raconte dans le discours de la méthode comment il en est venu à s'écarter des idées acquises au cours d'une formation pourtant de très bonne qualité. Le travail de Descartes, version Julien, s'inscrit ainsi dans la tradition philosophique européenne, même s'il la réinterroge en profondeur à l'aide de l'opérateur d'écart que constitue la pensée chinoise. Platon ne savait pas que la Chine existait. Hein ? Socrate ignorait qu'il avait à l'autre bout de l'Eurasie un collègue nommé Confucius. Descartes, lui, connaissait l'existence de ce royaume lointain et admettait volontiers que les hommes y soient, je cite Descartes, aussi sensés qu'en Europe. Ben oui, puisque le bon sens est la chose du monde à mieux partager. Les Chinois en ont autant que les autres. Mais on se trouvait alors aux prémices, prémices avec un C, hein, aux prémices de la mondialisation. Maintenant, on est en plein dedans. Alors, on pourrait distinguer ainsi trois sortes d'écarts philosophiques, me semble-t-il. L'écart grec, par lequel la réflexion se démarque de l'opinion. L'opinion, c'est-à-dire cette mélasse mentale que sécrète toute vie sociale, tout entre-soi sécrète de l'opinion. Avec pour but explicite de définir les normes d'un savoir, d'un genre nouveau, épistémé en grec, connaissance rationnelle. L'écart cartésien, lui, qui, au-delà des opinions, entend se démarquer des pseudo-savoirs, des savoirs douteux, même s'ils ont une apparence logique, si vous voulez, présentable. Enfin, correspondant à l'état actuel de l'histoire, mondialisé, ou mondial, hein, comme dit Patrick Boucheron, un écart qui porte sur la culture, sur l'impensé qu'implique l'appartenance à une culture. Le chantier conceptuel de Julien me semble se tenir à ce niveau-là, toujours entre où il exerce une pensée, entre guillemets, agile. Agile, c'est le terme utilisé par Julien que je retiendrai pour qualifier sa propre pensée philosophique. Pour le même exercice avec Merleau-Ponty, j'ai choisi ductile. Pensée agile, c'est-à-dire toujours en mouvement, jamais de surplace, et pourtant extrêmement cohérente dans son expression, comme si elle ne cessait de se préciser et de s'expliciter à chaque livre. Je m'en tiendrai à cette présentation. Je m'arrête.